Vous connaissez le verre de Rostand? Eh bien oui, sous le soleil, les costumes de l'homme gang sont beaucoup plus chatoyants, beaucoup plus hauts en couleur. Et j'espère pour vous et pour nous que nous aurons bientôt d'ailleurs cette télévision en couleur, car le spectacle d'ici est vraiment très joli.
La surprise et l'enchantement des invités sont saisissants. Elisabeth II et son mari n'ont encore jamais vu ça. Cette année, certainement portée par leur auguste présence, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. Des échasseurs, des arbalétriers, des chevaux légers, c'est l'histoire qui se joue là, sous leurs yeux. Étendards et couleurs se meuvent sous le vent. Même le balcon de l'hôtel de ville s'est drapé de ses plus beaux atours. Un lâcher de colombes, pour symboliser la célébration de la paix, obtient un grand succès. Des danses traditionnelles permettent à l'atmosphère de revêtir un côté séculaire. Les jeux et épreuves traditionnelles en vigueur depuis les premiers temps de la procession prennent place. Le couple royal repart avec des étoiles plein les yeux. La tradition de l'homme gang n'est pourtant de retour dans les rues de Bruxelles que depuis une trentaine d'années. L'événement aurait pu disparaître à tout jamais, comme l'explique le président de l'homme gang en 1981.
La dernière Omegang qui a eu lieu, et qui a été, le plus mauvais, le plus triste, a été celui qui a été exigé par Napoléon. Lequel, lorsqu'il est entré à Bruxelles, a exigé la sortie de l'Omegang, parce que l'Omegang était en quelque sorte une approbation publique censément du pouvoir. Ce fut un triste Omegang qui, par la suite, a repris en 1930 à l'occasion du centenaire de la Belgique. À l'initiative du professeur Marinus, du professeur Léon Terlinden et également de l'abbé Besmet. Ce qui veut dire que notre société est en fait gardienne d'une tradition. Elle n'est pas du tout une société qui peut s'autoriser une fantaisie et faire ce qu'on appelle un certain carnaval de l'histoire.
C'est donc lors du centenaire de sa création et de son indépendance qu'un certain Albert Marinus, sociologue, historien, chercheur et spécialiste de l'histoire folklorique belge, met sur la table l'idée d'une recréation de l'homme gang. Les Fastes belges, c'est le nom que porte cette première réédition, est le fruit d'un travail de longue haleine. Le retour de la procession est alors un moyen de matérialiser l'unité de la Belgique dans un contexte de célébration qui le nécessite. Il n'est plus uniquement question d'évoquer l'arrivée de la statue de la Vierge miraculeuse dans la ville, mais aussi de reconstituer l'entrée de l'empereur Charles Quint dans la cité bruxelloise. Mais comment faire repartir un feu alors que les braises sont éteintes depuis belle lurette? Pour Marinus, la réponse est simple. Il faut reconstituer l'histoire. Le chercheur va s'appuyer sur les témoignages de l'édition de 1549, celle-là même qui fut organisée en l'honneur du souverain du Saint-Empire. Mais c'est pas tout. La grande procession, organisée en 1615, en présence d'Albert et Isabelle de Habsbourg, a aussi donné lieu à la production d'images picturales intéressantes. Chars, draperies, ornements, tous ces éléments permettent à Marinus de repartir sur de bonnes bases. L'homme fort du projet mobilise des artistes qui vont dessiner les chars et les costumes dans toute leur variété et leur sensibilité. La production est incessante, assez pour produire un total dingue de 3000 tenues, hein, c'est pas rien. Marinus n'est pas seul évidemment pour mettre en place cette extraordinaire renaissance. Il est déjà soutenu par d'autres personnalités bruxelloises, comme le professeur et abbé François-Henri de Smet. Et puis, le bourgmestre de la cité, Adolphe Max, y voit aussi son intérêt. C'est parce que d'emblée, il n'est plus question de faire de l'homme gang un événement seulement culturel et patrimonial. Marinus évoque la procession en ces termes dès 1929. Une propagande bien faite ne réunirait-elle pas dans les murs de notre bonne ville Hollandais, Anglais et Américains friands de ces spectacles évocateurs du passé? Le commerce n'en retirerait-il pas de larges profits? le visionnaire, déjà, comprend que l'événement peut devenir l'un des fers de lance de la vie culturelle belge et que cela passe par sa valorisation économique. Du cinquantenaire jusqu'à la Grand Place, à plusieurs reprises, entre le mois d'août et le mois de septembre, l'Omegang renaît de ses cendres. Les spectateurs découvrent une époque durant laquelle la ville de Bruxelles a connu un véritable âge d'or. La procession est composée de multiples éléments. 2301 hommes, 68 femmes, 111 enfants, 461 chevaux, 9 chiens, 2 ânes, 1 chat, 16 chars et 3 chariots. Défile sur la base d'un scénario travaillé minute par minute. Le retour de l'Omegang connaît un grand succès. Dès lors, un attachement particulier va lier l'événement aux Bruxellois, fiers de retrouver une partie de leur patrimoine culturel. Cependant, l'organisation est complexe et fragile.
C'est l'esprit d'ensemble qui anime chacun. En fait, l'Omegang est dirigé par une équipe d'environ 40 volontaires qui sont des chefs de plateau, si vous voulez, des régisseurs adjoints, et qui connaissent chacun les rôles. Mais il est évident que s'il n'y a pas de répondant du côté des participants, on ne trouve pas la cohésion voulue, ou on ne trouve pas le rythme, on ne trouve pas l'esprit, disons, de 1549. Ou bien ils n'ont pas l'esprit, ou bien il fait trop chaud. Par exemple, il y a des incidents, il faisait tellement chaud que comme ils devaient attendre dans la rue Charles Bulz et dans toutes les rues avoisinantes, ils rentrent forcément dans les petits cafés. Ils boivent. On en a besoin. Ben, c'est parfois très difficile à réunir, disons, à les faire marcher droit.
Pour autant, il n'est pas question, comme au Moyen-Âge ou durant la Renaissance, de répéter l'opération chaque année. Les autorités misent plutôt sur des événements amenés à se répéter à échéance régulière, tous les 5 ans. Mais la grande histoire va se remettre en marche. Et face à elle, l'Omegang, nouvelle version, ne va rien pouvoir faire. En 1939, en mettant le pied en Pologne, Hitler déclenche le début de la Deuxième Guerre mondiale. La Belgique ne tarde pas à être l'une des victimes de la Blitzkrieg, la guerre éclair menée par le Führer à l'Ouest. Occupé durant la quasi-totalité du conflit, le royaume vit entre parenthèses. Et la célèbre procession, comme beaucoup d'autres choses, est à nouveau suspendue. Mais par rapport à la situation au XVIIIe siècle, la donne est bien différente. Les Belges sont profondément attachés à l'événement et plébiscitent son retour. Ainsi, dès 1957, il devient annuel et bascule dans une nouvelle ère, celle de la ritualité. Albert Marinus, encore vivant à cette date, peut avoir le sentiment du devoir accompli. L'Omegang est devenu un rendez-vous pérenne, ancré dans le cœur des Bruxellois et des Belges. Plus encore qu'un intérêt purement national, c'est aussi au niveau international que l'événement attire de nombreux regards. Que ce soit, comme nous l'avons vu, en 1966 avec la visite officielle de la reine d'Angleterre, nombre de célébrités et de chefs d'État se déplacent à Bruxelles afin de participer à ce moment suspendu. Les élites ne sont pas les seules à poser un regard curieux sur ce rendez-vous. Des touristes du monde entier font le déplacement. De plus, un spectacle historique adapté a spécialement été créé pour être exporté dans le monde entier.
L'Omegang s'est déplacé pratiquement en entier à Montréal. Il s'est déplacé en entier au Japon. Nous avons eu la scène pendant 8 jours complets, ce qui était absolument remarquable. Les Japonais étaient emballés par l'Omegang et ils ont mis en œuvre des moyens d'exécution, de production absolument extraordinaires.
Ils étaient donc sensibles à ce type de
folklore. Je crois qu'ils avaient l'impression que c'était eux.
Les organisateurs de l'Omegang viennent de réussir quelque chose d'unique. Transformer la résurrection d'un rendez-vous folklorique et traditionnel du passé en un événement inscrit dans le présent. Au cœur de cet engouement spectaculaire, la procession va bientôt passer un cap, celui de la reconnaissance des instances culturelles internationales. Dès le début des années 2000, l'Omegang se lance dans une nouvelle conquête, celle de l'UNESCO. L'événement séculaire mérite-t-il sa place au sein du patrimoine mondial? C'est à l'instance de trancher.